Amen, amen, gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien ce matin ? Bon, je suis très heureux d'être avec vous. Merci pour ceux qui ont prié pour nous pour la retraite pastorale. Le Seigneur nous a parlé, nous a encouragé, nous a fortifié et on revient encore plus enthousiasmé pour le servir. Amen, amen. J'aimerais, avant de prendre la place pour le message, j'aimerais vous partager un témoignage que j'ai pu suivre durant plusieurs mois. C'est notre sœur Françoise qui nous suivait sur Internet et qui m'a envoyé son témoignage. Voici ce qu'elle nous raconte. Fin octobre, j'ai remarqué, suite à une maladie, j'ai remarqué une perte de cheveux inhabituelle. Quand je me coiffais, il y en avait beaucoup sur le peigne. Puis, au fil des jours, j'avais des touffes dans la main. Aller à la douche devenait un calvaire. Il y en avait partout. Je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir. Je voyais la blancheur de mon cuir chevelu. Le matin, quand je me réveillais, je touchais ma tête pour sentir si j'en avais encore. Je pleurais devant le miroir et je criais à Dieu de m'aider. C'était difficile à vivre. Je commençais à acheter des produits, des lotions, des shampoings, des sérums, des compléments alimentaires, jusqu'aux piqûres intramusculaires, plus de 200 euros. Je ne voyais pas d'amélioration. Ça tombait toujours autant. Je me disais qu'il fallait être patiente. Je commençais à regarder sur Internet pour acheter une perruque, puis Dieu m'a parlé lors du culte du 5 décembre, au travers d'une prophétie par l'un de ses serviteurs, qui disait que une personne nous suivait sur Internet et suite à une maladie, celle-ci perd ses cheveux. Elle a essayé beaucoup de choses, mais maintenant c'est la main de Dieu qui se pose sur elle. Elle n'ose plus sortir, mais c'est la main de Dieu qui se pose sur elle. Dieu allait intervenir. J'ai senti une grande émotion m'envahir et mes larmes ont coulé. Mon Père Céleste avait entendu mes prières. Les jours qui ont suivi, j'ai constaté qu'il y avait de moins en moins de cheveux qui tombaient. Je n'appréhendais plus d'aller me laver la tête. Maintenant, c'est une perte de cheveux normale, 3 à 4 cheveux par coiffage. J'ai également constaté la repousse. Je vois de moins en moins le blanc du cuir chevelu. Je rends gloire à Dieu qui se soucie de nous dans les moindres détails de nos vies. Rien n'est trop petit pour lui ou insignifiant. Son amour envers ses enfants est immense. Alléluia. On a notre sœur qui a pris quelques photos et à chaque fois qu'elle prenait sa... Voici le départ. Voici ce qui se passait. Elle m'a envoyé à chaque fois ses photos. Regardez la repousse de ses cheveux. Petit à petit, tu peux continuer ma sœur. Regardez comment ça a repoussé en quelques jours. Encore hier soir, elle m'en envoyait. Et puis aujourd'hui, ma sœur a une tête bien remplie. Voilà les paires de cheveux qu'elle avait. Regardez. On peut afficher la suivante. Voici ce qu'elle perd maintenant. On peut rendre gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Ce matin, bien-aimé, je suis heureux d'être avec vous. Et le Seigneur m'a mis à cœur et à vrai dire, il m'avait, au travers de la conférence pour les dames, la conférence Elle, on m'avait demandé de partager un atelier sur la notion de féminisme. Et en travaillant ces choses, le Seigneur m'a beaucoup parlé, notamment pour l'Église. Et ce matin, le titre du message, c'est « Jésus était-il féministe ?» Alors, bon, vous doutez bien que l'idée, c'est pas juste de s'arrêter au féminisme. Et en même temps, j'ai tout à fait confiance. Mon épouse me l'a dit, je la salue, elle est malade, elle regarde à la maison. Elle me disait, « Ouh, tu marches sur une fine couche de glace sur ce message. » J'en suis tout à fait conscient, mais ce qui me rassure, c'est que Jésus a marché sur l'eau. Donc, je peux marcher sur cette fine couche de glace avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que nos cœurs soient ouverts à la parole de Dieu. D'accord ? J'aimerais que nos cœurs soient ouverts. Ne me considérez pas comme un coupable, mesdames, puisque je suis un homme. Et je le rappelle ici, je ne m'adresse pas qu'aux femmes. Vous allez voir que ce message est adressé à toute l'Église. Ce message est pour tout le monde parce que je crois qu'il est encourageant pour tout le monde. Moi, en premier, il m'a énormément encouragé dans ma foi. Alléluia ! J'aimerais vraiment qu'on soit sensible. J'aimerais que nous soyons ouverts. J'aimerais que nous ayons la capacité à prendre un petit peu du recul sur le côté affect et émotionnel qui peut nous empêcher des fois de recevoir des choses. J'ai tout à fait conscience que ce sujet fait écho à de réelles souffrances et je reviendrai dessus durant ce message. Mais la parole de Dieu nous dit « En Christ, il n'y a ni homme ni femme. » Alléluia. Nous sommes tous ensemble dans ce message et j'aimerais vraiment que nous soyons tous exhortés à la lumière de Christ sur ce sujet. Alléluia. Je crois qu'il est bon aussi de venir sur des choses qui affectent la société, qui peuvent affecter le peuple de Dieu, mais nous avons une arme, c'est la parole de Dieu. Amen. Hébreux 4, verset 12 nous le dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Notre épée, c'est la parole de Dieu. Amen. La première fois, j'ai presque hésité à lire les armes d'Éphésiens 6, disant « Je viens protéger ce matin ». Mais je vous rassure, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas hostile ce matin. Ça va pour tout le monde ? Bon, j'ai mis le plus de parenthèses, j'ai mis le plus d'embâches possible. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le message. Il sera un petit peu différent, il sera construit de manière un petit peu différente. La parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel juge de... Ah, j'ai pas bien entendu. L'homme spirituel juge de tout. Et j'aimerais ce matin que nous puissions juger de cette question et de la pensée féministe au regard de ce que la Bible nous dit. Comment les choses vont se passer ? Je vais d'abord donner un survol historique. D'accord ? Parce que c'est important de comprendre le point de départ. Ensuite, je vais parler un petit peu des aspects de la société, de l'impact sociétal de cette pensée. Puis, qu'est-ce que le féminisme ? Au sens propre, et enfin, le meilleur pour la fin, le plus important, ce que je veux que vous gardiez, c'est qu'est-ce que la Bible en dit. D'accord ? Donc ce n'est pas un cours de sociologie ce matin, je vous rassure, ne partez pas avant la fin, parce que je vais vraiment rentrer dans les textes de la parole de Dieu. Ça va pour tout le monde ? Tout le monde est là ? Ok, alors on va commencer ça sera un rapide survol historique, puisque bien sûr qu'on aurait, si j'avais plus de temps, je pourrais rentrer bien plus dans les détails, mais chose que je n'ai pas ce matin. On parle de 3 à 4 vagues de féminisme, 4 selon les experts, on parle de 3 à 4 vagues. Mais la première, et il est clair, c'est que le féminisme n'est pas une nouveauté. Le féminisme a commencé tout de suite après la Révolution française, c'est-à-dire 1789. Je vais revenir dessus tout à l'heure, mais voici les 4 grandes phases. C'est le 18e siècle jusqu'aux années 1930, où le féminisme défend notamment la question des droits civiques et des droits civils. À partir de 1960, c'est vraiment une lutte centrée contre le patriarcat et pour les libertés des femmes. Ensuite, nous avons jusqu'en 1980 une multitude de combats, mais de profondes réflexions sur le genre et l'orientation sexuelle. Et on parle du 4e vague pour certains, qui est là beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas ciblée sur un thème précis, mais c'est une pensée féministe qui se dilue dans tous les autres sujets. Comme vous en avez peut-être déjà entendu parler, le wokisme et toutes ces choses-là dans lesquelles je ne rentrerai pas ce matin. Pourquoi j'aborde le féminisme ? Parce que je crois aujourd'hui que, me déplaçant passablement dans les églises, dès que j'aborde la notion de féminisme, c'est probablement le sujet ou un des sujets qui peut créer le plus de tension dans l'église. Et ce que je vous dis là, je le vis quand je me déplace et quand je l'aborde, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc j'aimerais qu'on puisse le regarder droit dans les yeux ce matin. 1789, l'idée d'égalité entre les sexes est quelque chose qui est là depuis bien longtemps. C'est très longtemps, ça fait très longtemps qu'on parle de cela, mais la notion de féminisme, l'idéologie, le concept de féminisme a été vraiment instauré à partir de 1789, juste après la Révolution française. Le féminisme, et je le rappelle, la Révolution française vient du siècle des Lumières, un siècle qui était profondément anti-Dieu, puisque dans ce siècle-là, l'homme est son propre Dieu. De là est née la Révolution française et de là est née la pensée féministe. J'aimerais vraiment nous rappeler, bien aimé, que ce n'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose de très ancien que nous retrouvons en France. On retiendra par exemple Olympe de Gouges. Pour ceux qui ont creusé un petit peu ce sujet, on retient Olympe de Gouges comme étant la première femme à porter le droit de la femme et de la citoyenne. Elle écrira notamment une déclaration intitulée comme ceci. En 1793, elle sera exécutée. Et j'aimerais le préciser, l'un des premiers combats du féminisme, c'était le droit au divorce. Probablement même le premier combat du féminisme, c'est en 1792, vous voyez que c'est pas très longtemps après la Révolution française, qu'on votera pour le droit au divorce par consentement mutuel. On reviendra dessus un petit peu plus tard, en 1816, et on réaccordera ce droit de nouveau quelques années après. Mais j'aimerais rappeler ça. Pourquoi ? Parce que c'est important pour moi de montrer que l'un des premiers combats du féminisme, c'était pas une égalité de vote, ce n'était pas ces choses-là, c'était le droit au divorce. Vous me direz peut-être, bien sûr, certains couples et certaines femmes étaient dans des conditions très précaires. Et voilà pourquoi on a cherché le droit au divorce. Encore une fois, je vous l'ai demandé tout à l'heure, veillons à ne pas prendre l'exception pour valider la généralité. C'est comme ça que la généralité a donné le droit à l'avortement aussi, à cause d'exceptions. Mais j'aimais que nous puissions bien comprendre que la pensée féministe s'inscrit encore une fois dans le siècle, juste après le siècle des Lumières. C'est là l'origine. L'origine et le siècle des Lumières, c'était une volonté, entre autres, d'effacer table rase du passé, d'effacer toute trace de la religion chrétienne en Europe. C'était la volonté d'éloigner le citoyen occidental, le citoyen européen de cette pensée chrétienne. Il y avait une lutte contre Dieu et il y avait une lutte contre l'Église dans la pensée du siècle des Lumières. Et juste après, nous avons dans la pensée féministe le premier combat, une révolte contre le mariage qui, je le rappelle, a été instaurée par Dieu. Nous venons de voir une mise en règle tout à l'heure d'un homme et d'une femme qui ont le souci d'être unis devant Dieu. Le droit et la lutte pour le divorce est quelque chose qui, aujourd'hui, nous le voyons, amène des conséquences profondément néfastes sur la société. Mais j'aimerais aller un peu plus loin. En 1932, puisque je vous l'ai dit, le droit au divorce a été donné en 1792 et on est revenu dessus en 1816, donc il y a eu une deuxième vague de combat pour le divorce. En 1832, on parle, des femmes pétitionnent pour le droit au divorce. Elles parlent du mariage comme étant ce qui humilie les femmes. Elles le comparent, écoutez-moi bien, à de la prostitution légale. J'aimais que nous puissions m'afficher la citation de Jeanne de Rouen. Jeanne de Rouen, voici ce qu'elle nous dit en 1832. « Et cette coutume qui oblige la femme à porter le nom de son mari, n'est-ce pas là le fer brûlant qui imprime au front de l'esclave les lettres initiales du maître afin qu'il soit reconnu de tous comme sa propriété ?» Voici ce que le féminisme défendait dès le départ. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de mariage dangereux, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de la violence, et encore aujourd'hui, nous le voyons, les féminicides existent encore aujourd'hui. Mais je veux que nous comprenions l'état d'esprit dès le départ. J'aimerais que nous soyons attentifs à l'état d'esprit, parce que c'est de ça que nous allons parler ce matin. Si nous comprenons ici que dans les origines, le féminisme avait pour bataille, en tout cas principale ou je dirais majeure, le droit au divorce, nous comprenons quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Peut-être me direz-vous, oui, mais aujourd'hui le féminisme a changé. Mais regardons à l'origine pour savoir si c'est bon. Regardons aux fruits. Regardons aux fruits. Aujourd'hui, on parle d'un mariage sur deux ou sur trois en France qui termine en divorce. Dites-moi que c'est une bonne chose pour la société française. Dites-moi que c'est une bonne chose pour les couples. Dites-moi que c'est une bonne chose pour la famille. Dimanche dernier, sans qu'il soit conscient que j'allais prêcher sur ça, papa expliquait encore et le disait, nous croyons au mariage qui dure jusqu'à la fin. Parce que c'est là quelque chose que le Seigneur nous a donné comme une grâce. Le mariage est une notion spirituelle, est une notion forte. Vous savez qu'on parle, et certains psychologues disent que dans le meilleur des cas, pour un enfant, il lui faut 10 années pour se remettre d'un divorce. Dans le meilleur des cas. Donc avec quelques centaines d'années de recul, dites-moi que ce combat-là était un bon combat. Bien-aimés, j'aimerais que nous soyons conscients de cela. Et je ne vais pas prendre le temps ce matin de détailler plein d'autres aspects du combat du féminisme dans l'histoire, mais je vous encourage à lire. Parce que je crois que nous pouvons être influencés si nous ne nous renseignons pas dessus. Je vous encourage à lire, il y aurait beaucoup d'autres choses que je pourrais donner, mais j'aimerais aller un peu plus loin. Quel est l'impact sociétal? Nous l'avons vu sur les couples, nous avons vu le divorce. Mais j'aimerais aller un peu plus loin. Quel est l'impact sur la femme aujourd'hui de la pensée féministe? Parce que, encore une fois, la pensée féministe est quelque chose de distillé partout dans la société, au travers des médias, au travers des lois, au travers de livres, au travers de personnes qui ont une voix qui est portée bien au-delà de nos milieux. La pensée féministe est là. Quel est l'impact aujourd'hui sur la femme? L'une des pensées féministes qui est très importante, c'est que la femme, puisqu'elle doit être comme l'homme, doit faire carrière. C'est une pensée qui est féministe. Je ne dis pas qu'une femme qui fait carrière est une mauvaise chose, mesdames. Je ne dis pas qu'une femme qui travaille est une mauvaise chose. Je dis juste que dans la pensée féministe, la femme doit faire carrière. Autrement dit, cela amène deux choses importantes. Dans la pensée féministe qui dit que la femme doit faire carrière, la carrière doit être prioritaire. Sur la famille, sur un couple, sur des enfants, sur de l'éducation. La carrière doit être la priorité puisqu'elle doit atteindre les mêmes objectifs que l'homme. Résultat des courses, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Résultat des courses, nous avons, et je le dis et je le crois, mesdames, en règle générale, la femme est plus intelligente que l'homme. En règle générale, mais je ne parle pas de Ah ben voilà, je savais qu'il fallait que je dise quelque chose comme ça. Je le crois. Je le crois, pourquoi ? Parce que tout simplement, on le voit dans les études supérieures. La femme a plus de succès dans les études supérieures. Si on parle d'intelligence dans les études, la femme a plus de succès. C'est une évidence. Et dis donc, il faut que je dise ce genre de choses pour vous entendre. Ah voilà, parce que j'entendais plus d'amen, j'entendais plus de tout ça. Mais qu'est-ce que je dis par là ? Je dis que, puisque, voici le constat qu'on fait aujourd'hui. Dans à peu près toutes les études supérieures, nous voyons que la femme prend de plus en plus de place. Et c'est dans bien des cas une bonne chose. Encore une fois, je crois qu'il est bon que certaines femmes prennent de la place, etc. Maintenant, voici le résultat. C'est qu'au bout d'un moment, l'horloge biologique, que vous le vouliez ou non, mesdames, se fait sentir. Elle est là parce que Dieu l'a placée. Et je vais revenir dessus sur le privilège d'être mère tout à l'heure. Mais l'horloge biologique se fait sentir. Si nous faisons 10 années d'études et que nous terminons les études à 27, 28 ans, bien sûr que nous voulons travailler dans ce milieu pour lequel nous avons investi plusieurs années de notre vie. C'est normal. Mais arrivé à 35, 36 ans, l'horloge biologique se fait sentir. Résultat des courses, nous voyons énormément de femmes. Il y a très peu de femmes qui font des carrières longues. Très peu de femmes. Ça amène un autre résultat. Notamment aux États-Unis, où vous avez 80% des personnes qui sont dans les études sociales, dans les études supérieures sociales, les sciences sociales. La plupart sont des femmes. Eh bien, nous voyons de moins en moins de carrières longues dans les sciences sociales. Ce que j'amène comme réflexion, c'est la suivante. Est-ce que pousser toutes les femmes à faire des carrières longues est une bonne chose pour la société ? Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas faire carrière, je ne dis pas qu'une femme ne peut pas travailler, ne peut pas entreprendre, et je vais revenir dessus encore une fois tout à l'heure. Mais je dis que d'influencer en disant « c'est ça la solution », je crois que c'est un mensonge. Mesdames, vous pouvez faire bien d'autres choses et être profondément épanouies. Profondément épanouie. Je vois juste sur ma droite, et je suis très content qu'elle soit là, Talita, qui est une jeune femme de l'église et qui, elle, actuellement... Tiens, combien d'années de médecine, Talita ? Cinquième année de médecine. Elle est en cinquième année de médecine. Mais vous savez ce qu'elle me dit ? Elle me dit, mais moi, j'attends qu'une chose, c'est d'être maman pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Aujourd'hui, c'est rare, ça. Et je vous assure que je ne lui ai pas mis dans sa tête. Hein. Elle l'avait avant qu'elle arrive ici, hein. Mais j'aimais bien aimer que nous puissions honorer aussi le privilège d'être maman. Parce que je crois que l'un des impacts de la société, justement à ce niveau-là, c'est le déni de privilège d'être mère. Le féminisme n'encourage pas du tout le fait d'être mère. Au contraire, c'est devenu un obstacle. Là où Dieu dit que c'est une bénédiction pour la femme, le féminisme dit que c'est un obstacle pour faire carrière. Regardez ce qu'il nous est dit. Est-ce qu'on peut m'afficher la citation de Maria de Rheim, s'il vous plaît ? Épouse et mère, elle n'est autant dire rien. En 1832, elle dira cette phrase. Cette dame est morte en 1894. Vous voyez que je prends volontairement des citations qui datent depuis très longtemps. Parce qu'elles ont eu le temps de s'installer, ces pensées. Elles ont eu le temps de s'installer, ces idées. Dans la pensée féministe, être une mère n'est pas forcément une bonne chose. J'aimerais bien aimer nous rappeler, et mesdames, j'aimerais vous le rappeler, c'est un privilège. Dimanche dernier, papa l'a cité encore une fois, mais quel est le constat ? C'est qu'en 2023, c'était le taux le plus bas de natalité en France, 1,8 enfants. Il n'y a jamais eu de taux aussi bas. Chers frères et sœurs, je ne m'adresse pas là ici en tant qu'homme envers des femmes, encore une fois. Je m'adresse à l'Église. J'aimerais que nous puissions être conscients, juste regarder, juste faire un constat. Si l'homme spirituel juge de tout, il faut d'abord être capable de faire un constat. Dans ce constat, nous voyons réellement un impact profond sur la femme, mais plus que ça. Nous voyons un impact profond également sur la relation homme-femme. Parce que le féminisme cherche à opposer l'homme et la femme. La pensée féministe, je vais la détailler tout à l'heure, n'est pas juste une question d'égalité, c'est une question d'opposition entre l'homme et la femme. Qui domine qui ? Regardez ce que nous dira Caroline De Haas, la fondatrice du mouvement Oser le féministe, qui déclarera une statistique incroyable, je ne sais pas comment elle a fait pour la trouver, vous ne la trouvez pas dans les chiffres, elle dira un homme sur deux ou sur trois est un agresseur. J'aimais vous montrer une affiche de 1981 du mouvement de la libération des femmes. Voici ce que cette affiche nous disait, placardée dans toute la France. Cet homme est un violeur, cet homme est un homme. Autrement dit, tous les hommes sont des violeurs. Comprenez quelle est la position féministe envers l'homme. Vous me direz, ah mais ça c'est les féministes extrêmes. J'aimais vous rappeler, c'est la pensée. C'est l'idée qui est derrière cela. Même si vous ne portez pas ce message-là, voici l'idée derrière cela. Tous les hommes sont des violeurs. C'était quelque chose que vous voyez placardé partout. Résultat des courses. L'homme doit avoir peur de la femme et la femme doit avoir peur de l'homme. La femme doit avoir peur de l'homme. Mesdames, aujourd'hui, je vois de plus en plus de femmes inquiètes des interactions avec certains hommes, de jusqu'à où ça pourrait aller. Et encore une fois, je ne fais pas l'autruche. Je crois réellement, malheureusement, qu'il y a eu des drames. Je crois qu'il y a eu des hommes qui violent, effectivement. Je crois qu'il y a eu des féminicides. Je crois toutes ces choses-là. Mais de là en faire une généralité que, ici, tous les hommes sont des violeurs, j'émets des doutes. Bien-aimés, soyons attentifs à ce que la pensée féministe nous dit dans le détail. Aujourd'hui, l'homme, bien-aimé, ne souffre pas d'un excès de virilité. Pour la plupart, au contraire, c'est d'une crise identitaire qu'ils souffrent. Aujourd'hui, et je l'ai dit dans mon dernier message, les hommes ne sont plus des hommes. Ils n'arrivent plus à prendre des décisions. Ils n'arrivent plus à faire des choix. Ils n'arrivent plus à se projeter. Ils n'arrivent plus à porter. Ils n'arrivent plus à assumer. Les hommes ne sont plus des hommes. Ils sont des adolescents, des adultes adolescents. Bien-aimés, le résultat de cette pensée-là, c'est de démasculiniser l'homme. Parce que tout ce qui était attaché traditionnellement aux attributs masculins a été bridé, conditionné dans une certaine forme de pensée. L'homme n'ose plus. L'homme n'ose plus. Je vois tellement de femmes célibataires qui me disent « Mais moi, aucun homme ne vient me parler, mais parce que les hommes n'osent plus. » Bien-aimés, je vous parle de souffrance profonde. Pour certains et certaines. Mais regardez, quand vous cherchez à atteindre un extrême, vous arrivez toujours à créer votre antagoniste, l'autre extrême. Et vous avez de plus en plus en même temps de machos dans la société. Vous avez de plus en plus d'hommes qui veulent affirmer leur position en écrasant la femme. Parce qu'en voulant atteindre un extrême, vous atteignez en même temps l'autre. Vous en avez de plus en plus. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Ok. Qu'est-ce que le féminisme ? Parce que voilà la question. Qu'est-ce que le féminisme ? J'aimerais vous donner la définition Larousse. Le féminisme est un mouvement social ayant pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, tout particulièrement dans les domaines juridiques, politiques et économiques. Bien-aimés, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. Parce que le féminisme est bien plus qu'un mouvement social. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le féminisme s'inscrit directement dans le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières a pour but de faire table rase du passé, table rase de Dieu, table rase de l'ancien régime. Eh bien, le féminisme qui s'inscrit dans cette même pensée, le féminisme qui a été réfléchi de cette manière-là, a énormément contribué, je l'ai mentionné tout à l'heure, à partir des années 80, au développement des théories du genre et des théories transsexuelles. Ne me dites pas que c'est juste un combat d'égalité, cela. Parce que le féminisme tend, et c'est la suite logique des choses, à faire table rase du passé. La norme hétérosexuelle n'est plus une norme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la pensée féministe l'a également propulsée à partir des années 80. Des théories ont été réfléchies, mises en place à ce niveau-là. Le féminisme, bien aimé, n'est pas juste un combat social, le féminisme est une idéologie. Le féminisme est une idéologie. Qu'est-ce qu'une idéologie ? Une idéologie, je vais essayer de vous l'expliquer de plusieurs manières. Idéologie, idée et logique. C'est la logique de certaines idées. Autrement dit, c'est le prisme par lequel je décide de voir les choses. C'est le féminisme a une certaine idée, a une certaine logique, et dans cette logique, je vais regarder l'histoire, dans cette logique, je vais regarder la société, dans cette logique, je vais regarder le monde du travail, dans cette logique, je vais regarder les relations hommes-femmes, dans cette logique, je vais regarder l'éducation. C'est une logique qui conditionne mes idées. Pour vous l'expliquer autrement, une idéologie, c'est une boîte dans laquelle on pense les choses. C'est une boîte dans laquelle on enferme les choses. Et si les choses ne rentrent pas dans cette boîte, on va faire en sorte qu'elles rentrent. C'est pourquoi on révise l'histoire à partir de cette logique-là. C'est pourquoi on révise les relations hommes-femmes à partir de cette logique-là, puisque tout doit rentrer dans cette boîte. C'est pourquoi on regarde la religion à partir de cette logique-là. Et là aussi, bien aimé, le féminisme défendu dans la société n'encourage pas du tout la foi en Dieu. Et encore moins le christianisme, qui serait la cause de grandes souffrances pour vous, mesdames. Mais Christ nous a rendus libres, non ? Bien aimé, l'idéologie, c'est ce qui nous amène à penser d'une certaine manière. Quelle est la fragilité d'une idéologie ? C'est que pour tout faire rentrer dans une boîte, il faut simplifier les choses, ce qui amène à ôter toute forme de nuance. Certains hommes sont des violeurs, oui. Tous les hommes sont des violeurs ? Non. Mais ça ne rentre pas dans la boîte idéologique du féminisme. Tous les hommes doivent être des violeurs. On enferme d'une certaine manière. Ça va pour vous ? Vous êtes toujours là ? Ok. Ça vous intéresse ce que je dis ? Bon. Ok, moi je vous rassure, vraiment après on va aller plus loin dans la parole, mais j'aimerais qu'on dépeigne le tableau pour aller un peu plus loin. Quel est le pouvoir d'une idéologie ? Eh bien tout simplement, l'idéologie influence sans en donner l'impression, puisqu'elle est impalpable, elle est diluée, diffusée partout. L'idéologie est difficile à déceler si nous sommes enfermés déjà dans cette logique, dans ce système. C'est très difficile de comprendre que nous pensons d'une certaine manière parce qu'on est conditionné par ces choses-là. C'est très difficile et je priais, je disais encore ce matin dans chez moi à la maison, Seigneur, vraiment ouvre nos yeux aux hommes et aux femmes, ouvre nos yeux. Nous voulons voir au travers de la parole de Dieu. Nous voulons voir, nous voulons déjouer les traits enflammés du malin. Nous voulons dévoiler ce qui est caché et ce qui est sournois. Bien-aimés, j'aimais que nous puissions comprendre. Vous connaissez cette citation qui dit « Semez une pensée et vous récolterez une action. Semez une action et vous récolterez une habitude. Semez une habitude et vous récolterez un caractère. Semez un caractère et vous récolterez une destinée. » Chers amis, lorsqu'on conditionne une manière de penser, on forge un caractère qui devient une destinée. J'aimerais nous rendre attentifs, bien-aimés, à nous qui sommes disciples de Christ. Nous n'avons pas besoin d'être conditionnés par toute autre forme d'idéologie. C'est la parole de Dieu, notre socle. C'est ce que Dieu nous dit, qui est notre source d'espérance. Et je vous le dirai de cette manière-là. Si vous pensez sur ce sujet exactement de la même manière que le monde pense, il y a un problème. Puisque la Bible nous dit que nous sommes lumière et que dehors, c'est les ténèbres. Mais si nous avons la même logique d'idée, il y a un problème quelque part. Bien-aimé, j'aimais aller un peu plus loin sur cette pensée du féminisme et sur cette pensée plutôt de qu'est-ce qu'une idéologie. Je vous ai déjà parlé du livre 1984 de George Orwell, un livre que j'aime beaucoup, qui imagine, c'est un roman, et qui imagine dans un monde, un régime tyrannique. qui a pour but de conditionner les gens à penser d'une certaine manière. Eh bien, dans ce régime tyrannique, il y a tout un secteur qui a beaucoup d'employés et qui travaille à une seule chose, la refonte du vocabulaire, la simplification du vocabulaire et la création de nouveaux mots destinés à approfondir l'idée du régime. J'aimerais nous rendre sensibles à cela. Pourquoi ? Parce que toute idéologie travaille et reforme le vocabulaire. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Je vais vous le démontrer maintenant même. Mais petite anecdote intéressante que j'ai découverte également, c'est que justement, en 1984, le gouvernement français a demandé la création d'une commission de terminologie chargée d'étudier la féminisation des titres, des fonctions et d'une manière générale le vocabulaire concernant les activités de femmes. Donc, une commission est développée pour travailler cela. La création de mots, la simplification de mots, la création de concepts sert à conditionner les idées. Pourquoi ? Parce que les idées viennent au travers des mots. Si des mots ne décrivent plus certaines idées, eh bien on fait de moins en moins de nuances. Je vous prends un exemple, la notion d'harcèlement. L'harcèlement, aujourd'hui, mesdames, si quelqu'un vous siffle dans la rue et si quelqu'un vous suit jusqu'à chez vous, les deux sont des harceleurs. Mais vous m'accorderez que derrière ce mot-là, ces deux personnes peuvent être totalement différentes. Je ne dis pas que siffler une femme dans la rue est une bonne chose. Messieurs, ne faites jamais ça. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'élégant. Je pense même que c'est très mauvais. Je pense que ça peut être pris d'une manière violente pour certaines. Mais en termes de dangerosité, celui qui vous suit à la maison est beaucoup plus dangereux. On est d'accord avec ça. Mesdames, on est d'accord avec ça. Sauf que il n'y a plus qu'un seul mot pour définir ces deux extrêmes. Donc les deux sont vus comme des hommes très dangereux. Parce qu'on simplifie le vocabulaire. Parce qu'on retravaille les mots. À l'époque, le mot harcèlement désignait ceux qui cherchent à obtenir des faveurs sexuelles avec la violence. Aujourd'hui, cela s'est beaucoup plus étendu. La création de mots. Avez-vous déjà entendu le mot « manspreading » ? Vous avez déjà entendu ça ? Pendant, il y a quelques années, on en parlait beaucoup plus, parce que ça avait fait beaucoup de remue-ménage, notamment dans les pays anglo-saxons. Le manspreading, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement les hommes qui s'assiedent sans croiser les jambes, qui s'assiedent de cette manière-là. D'accord ? Je vois beaucoup d'hommes qui pratiquent le manspreading actuellement. Non, toi, t'as croisé les jambes, Philippe, c'est bien. Mais quelle est la pensée derrière ? C'est particulièrement dans les bus, particulièrement dans les métros, etc. Cette pensée, elle sert à désigner pas juste des hommes qui prennent de la place de manière physique, mais les hommes qui, qui en ouvrant, en s'asseyant les jambes écartées et sans croiser les jambes comme vous, mesdames, Christine, eh bien, ils essayent d'imposer par leurs attributs masculins leur place dans la société de manière violente. Vous me suivez ? Un peu. Alors certains ont fait. J'espère que vous n'avez pas sifflé quelqu'un. Hein. Attention. Mais ce mot a été créé dans la pensée féministe. Mais je vais aller plus loin. Aujourd'hui, on a légiféré dessus. À New York, vous avez interdiction de vous asseoir de cette manière-là. À Seattle, vous avez l'interdiction de vous asseoir dans cette manière-là. Dans certains pays asiatiques, vous avez l'interdiction de vous asseoir de cette manière-là. Messieurs, arrêtez de faire ça. Ah, ah. Encore une fois, une opposition entre l'homme et la femme. Un conflit entre l'homme et la femme. On cherche à se battre l'un contre l'autre, ça va toujours pour vous ? La création de concepts, je vous ai parlé de la simplification de mots, je vous ai parlé de la création de mots, je voudrais vous parler, pour terminer à ce niveau-là, de la création de concepts. Le concept de charge mentale domestique, qui là aussi a été créé en 1984 par une Française qui s'appelait Monique Eco. C'est un concept de sociologie. Pourquoi je tiens à l'aborder ? Parce que je crois que c'est quelque chose que j'entends énormément. Et je ne dis pas que la charge mentale, mesdames, n'existe pas. Et je crois, comme dans toute chose, elle a permis, elle a été le révélateur de vraies souffrances. Et je l'entends, et je le crois. Elle a été également le révélateur de plusieurs hommes qui ne faisaient pas grand-chose à la maison, pourtant ils avaient les moyens de le faire. Et je l'entends, et je le crois. Mais quel est le réel objectif ? C'est de montrer que la femme porte plus que l'homme. C'est d'opposer l'homme et la femme, une fois de plus. Le concept de charge mentale à ce niveau-là est un concept qui a pour but d'opposer là où à deux on porte beaucoup ensemble. Et c'est ce qu'on faisait avant ce concept. Maintenant, on se regarde pour voir qui porte le plus. Quand je regarde, je vois ici Joël et Stéphane, qui sont pour moi, vous êtes un exemple de couple. Ils sont là, ils sont fidèles, ils accompagnent les couples. Est-ce qu'on peut d'ailleurs les remercier pour tout ce qu'ils font ? Mais quand je regarde Joël et Stéphane, bien-aimés, là je m'adresse au peuple de Dieu. Nous sommes appelés, lorsque nous sommes mariés, nous ne faisons qu'une seule chair. On est d'accord avec ça ? Autrement dit, nous sommes appelés à porter ensemble. Mais Stéphane va porter des choses que Joël ne porte pas. Et Joël va porter des choses que Stéphane ne porte pas. Mais ils vont s'encourager mutuellement pour porter ensemble. Elle a dit oui plus vite que lui. Hein. Mais bien-aimé, ils s'encouragent. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à porter à deux, pas à dire « toi tu portes plus que moi ». Je crois encore une fois qu'il y a de réelles souffrances. Je crois encore une fois qu'il y a des choses qui sont injustes et déséquilibrées dans certains couples. Mais ce concept-là, de manière générale, a amené une fois de plus une opposition entre l'homme et la femme. Chers amis, une idéologie est réfléchie, une idéologie est pensée, une idéologie est discutée afin d'influencer. Ne soyez pas naïfs sur ces choses-là. Ne vous laissez pas manipuler par des idéologies qui conditionnent votre manière de penser. Il y a des choses que Sylvia porte plus que moi. Et chérie, je te remercie, tu n'es pas là et j'aurais tellement aimé que tu sois là ce matin. Parce que je vous assure, elle le dit, je l'aide, etc. Mais je suis d'accord, à la maison, elle fait beaucoup plus que moi. Pour quelle raison ? Mais pas parce que je suis un homme. Mais tout simplement parce qu'elle travaille un peu moins, elle travaille, mais elle cuisine un peu mieux aussi. Et elle est maman. Et elle est maman, son rapport aux enfants est complètement différent de mon rapport. Son rôle et mon rôle sont complètement différents. Mais il y a plein de choses que moi je vais porter et elle va m'encourager. Et moi je vais faire tout ce que je peux dans les soins domestiques et vous pouvez lui demander, je cuisine, je lave, je change les couches, je fais le linge, je peux tout faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais dans notre couple à nous, dans notre fonctionnement, elle fait une part plus que moi. Mais il y a bien des choses que moi je fais plus. Je gère les voitures, elle ne veut pas gérer les finances, sinon je lui aurais donné sans problème, mais je gère les finances, je gère le suivi des assurances, le suivi des papiers, je gère plein d'autres choses. Je gère les réparations. Qui s'amuse à couper du bois en hiver, c'est Bibi. Hein ? Mais pourquoi ? Mais quand elle peut, c'est ce qu'elle fait quand elle peut ? Elle vient et elle m'aide à ranger les bûches. Parce qu'elle me soutient. Parce qu'elle me soutient. On porte lourd à deux. Et plus que ça, peuple de Dieu, vous n'êtes pas juste appelé à porter les soins de votre maison, vous êtes appelé à porter le service pour le royaume de Dieu. Quand je suis en déplacement, ma femme m'aide à porter le service pour le royaume de Dieu. Parce qu'elle s'occupe de mes enfants et que ça me rassure. Parce qu'elle prie pour moi. Parce que je sais que je peux lui partager les défis. Parce qu'elle est là quand les choses sont difficiles. On porte ensemble le service. Ce matin, on se prenait les mains et on priait pour ce culte. Pourquoi ? Parce que nous portons ensemble. Au lieu de se comparer l'un à l'autre en disant « moi je porte plus dans tel domaine. » Hé, revenons à la base, portons ensemble. Alors là, j'attendais un vrai amen. Dis donc, mesdames et messieurs, portons ensemble. Je vais un peu, je termine avec ce point-là pour rentrer ensuite dans qu'est-ce que la Bible nous dit de tout ça. Mais pour moi, le point d'orgue, le paroxysme de la, pas encore, merci à l'équipe qui sont très réactifs, le point d'orgue de la manipulation de la pensée féministe des mots, c'est l'écriture inclusive. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Normalement, vous en avez entendu parler. L'écriture inclusive. Autrement dit, l'écriture, c'est extraordinaire. Elle inclut tout le monde. Elle prend tout le monde. Qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive? Nous sommes sauvés. E accent aigu, point, E, puisqu'il y a des dames, point, S. D'accord? Il y a un point qui nous sépare tous les uns des autres. L'écriture inclusive, et je remercie le Seigneur qu'on n'écrive pas comme ça ici, ne m'écrivez jamais comme ça, ça va vite me tendre, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est censé inclure tout le monde, mais en fait, dans les faits, ça nous cloisonne tous. Cela nous sépare tous. Là, on pouvait tous se retrouver derrière un même mot commun, nous sommes sauvés. Nous devons tous nous séparer les uns des autres, parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y a des femmes, parce que nous sommes plusieurs. Bien-aimés, on n'est qu'un seul peuple. On n'est qu'une seule famille. Oui, mais alors pourquoi? Pourquoi la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin? Mais c'est une règle orthographique. Pourquoi on cherche midi à 14h? C'est une règle d'orthographe. C'est une règle, c'est tout. C'est tout. Une règle qui a été instituée, et je vous l'accorde, dans un contexte, dans un climat de société, par un moine au 15e siècle. Pourquoi il a choisi le masculin qui l'emporte sur le féminin? La raison, et qui dira lui-même, pour lui, c'était il fallait choisir. À un moment donné, si on veut tous se rassembler derrière quelque chose, il faut choisir quand même. Et il dira, dans le monde, en général, c'est le masculin qui est plus fort physiquement que le féminin. On est d'accord avec ça? Et là aussi, le masculin l'emporte sur le féminin, pas l'homme sur la femme. Est-ce qu'on a demandé l'avis aux éléphants? Est-ce qu'on a demandé l'avis aux poissons? Est-ce qu'on a demandé l'avis aux autres animaux? Le masculin, c'est pas que l'être humain. Beaucoup plus large. Bien-aimés, j'aimerais nous rendre attentifs. Toutes ces choses-là sont dans le but de limiter et d'orienter la pensée. Dans le but de limiter et d'orienter la pensée. J'en arrive à ce que la parole de Dieu nous dit. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? On vient de dépeindre et je viens d'essayer de donner le plus d'éléments possible. Mais que nous dit la Bible? Le féminisme face à la Bible. On va lire le premier texte de Genèse 2, versets 18 à 24. Ça va, vous êtes toujours présents? Ok. Genèse 2, versets 18 à 24. Et si vous avez vos Bibles, je vous encourage et je vous invite à les ouvrir. Genèse 2, versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tous les êtres vivants portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, la première anesthésie générale. Et il s'endormit. Ça a commencé tôt, hein. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Ici, nous voyons clairement que la femme a été tirée de l'homme dans le but d'être une aide semblable. Dans le but d'être une aide, d'accord? Elle lui apporte son soutien. Ici, on le voit clairement, elle lui apporte son soutien. Je vais aller un peu plus loin. Elle le complète. Pourquoi Dieu a pris à Adam une côte et pourquoi il n'a pas formé Ève de la terre? Mais parce que il faut que Ève complète Adam. Aujourd'hui, mesdames, grâce à vous, il nous manque une côte. Et c'est vous qui complétez cette côte. Et c'est vous qui complétez cette côte. C'est vous qui permettez que aujourd'hui, l'homme sans la femme, c'est pas bon. Et la femme sans l'homme, ce n'est pas bon non plus. Pourquoi? Parce que Dieu a permis cette chose extraordinaire. Il manque à Adam quelque chose. Et c'est Ève qui l'a reçu. Et c'est Ève qui le complète. Et c'est Ève qui le donne. J'attendais un vrai amen. Hein. C'est Ève qui le donne. Elle est tirée de la côte. Pourquoi ? Parce qu'elle est à côté. Elle n'est pas supérieure et elle n'est pas inférieure non plus. Elle est tirée de la côte parce qu'il doit, elle doit compléter l'homme. Mais elle est tirée de la côte parce qu'elle n'est pas inférieure et elle n'est pas supérieure. Elle est à côté. Et c'est que les anciennes qui ont dit amen, hein. Elle est à côté, ma sœur, tu es à côté de ton mari. Mais je vais aller plus, un peu plus loin. Mes sœurs, vous êtes à côté de vous, mes frères. Parce que ce que nous lisons là, c'est pour l'homme et la femme, dans l'humanité également. Il y a un rapport profond dans le couple, mais il y a également ce rapport par rapport à l'homme et la femme. Alors quel est le problème ? Quel est le problème ? Le problème, nous le trouvons dans Genèse 3, versets 16 à 17. Suite à ce repas du fruit défendu, voici ce que Dieu dira. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Il y a deux choses ici que nous devons et que je voudrais relever. La première chose, c'est que Dieu juge la femme sur sa qualité et capacité d'être mère. Tu enfanteras avec souffrance. Et Dieu juge l'homme sur sa qualité et sa capacité à travailler. Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre les deux points principaux que Dieu avait confiés à l'homme et la femme. Mesdames, être mère, c'est la plus grande des bénédictions. Être mère, c'est la plus grande des bénédictions. Chérissez cette bénédiction. Messieurs, travaillez. Jeunes hommes, arrêtez d'être flemmards. Ils ne le sont pas tous, ils ne le sont pas tous, et ils ne le sont pas tous, je vous rassure. Je discutais encore avec deux jeunes, je ne sais pas s'ils m'écoutent, Stéphane et Christophe, la semaine dernière. Stéphane, je ne sais pas s'il est là, Stéphane, mais ah oui, c'est ça, tu es là, hein, tu es derrière, et Christophe, il est derrière, oh là là. Est-ce que vous pouvez vous lever tous les deux, s'il vous plaît ? Levez-vous voir, allez, levez-vous les gars, on peut les applaudir, s'il vous plaît, voilà. Stéphane et Christophe, vous avez 23 ans, hein ? 23 ans, les deux sont agriculteurs. Les deux sont agriculteurs. Et les deux aiment profondément leur travail. Il y en a un qui travaille à la ferme avec son papa, ils ont 14 000 poules. Et puis l'autre qui habite à 10 minutes, qui pareil, il y a plusieurs dizaines de vaches qui produisent, ils travaillent. C'est Christophe qui me disait, mais en été, ma journée, je me lève à 5, 6 heures. Et puis moi, j'aime terminer quand vraiment j'ai tout fini, donc 23 heures. Mais j'aime ça, c'est un travailleur. Amen. Donc messieurs, travaillez. Dans vos études, travaillez. Pour votre famille, travaillez. Ne vous lassez pas parce que c'est ce que Dieu vous a confié également. Merci. J'aimerais revenir dessus. Et je termine par cela. Le péché a entraîné un déséquilibre relationnel entre l'homme et la femme. Tes désirs se porteront vers lui, mais lui dominera sur toi. La notion de domination a été instaurée à ce moment-là. Alors que Dieu voulait que l'homme et la femme soient côte à côte, travaillant ensemble, portant ensemble, se complétant l'un l'autre, la notion de domination est venue. Quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui a le dessus sur moi. C'est pourquoi, mesdames, je le dis et je le crois, il y a de la domination de la part de l'homme sur la femme dans ce monde. Et c'est pourquoi je ne fais pas l'autruche, c'est pourquoi je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises choses, je vous dis juste que l'origine est le péché et la chute. Je vous dis juste que l'origine, oui, c'est une réalité. Oui, vous avez souffert probablement d'oppression et de la part de domination du sexe masculin. Mais ce que je vous dis, c'est que l'origine est spirituelle. Ne le combattez pas avec des idéologies charnelles. Ne battez pas des choses qui sont d'ordre spirituel avec des choses qui sont humaines. Pourquoi ? Parce que nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu. Parce que nous avons d'autres choses pour nous. La femme souffre, la femme a été bridée. Et dans l'histoire de l'humanité, la femme a souffert. Que je loue Dieu qu'une femme puisse voter aujourd'hui. Je loue Dieu d'avoir des collaboratrices avec moi. Je loue Dieu de voir des femmes qui prennent plus de place. Parce que nous le voyons dans Proverbe 31. Nous le voyons dans plein de... dans différents endroits. Nous le voyons chez Esther, nous le voyons chez Ruth. La femme a de la place selon Dieu. Et je loue Dieu pour cela. Mais ne pensez pas que le problème, c'est l'homme. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimés, le problème est spirituel. Le problème est spirituel. Et à vous, messieurs, le problème est spirituel. Arrêtez de faire les gros durs, particulièrement les jeunes hommes. J'en entends certains qui commencent à le rappeler, qui commencent à dire « Oui, non, mais hey, c'est l'homme, le chef, etc. » Je vais revenir dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que vous êtes au monde grâce à votre maman. N'oubliez pas que c'est votre maman qui vous a amené ici. C'est la femme. C'est la femme. Pourquoi je dis cela? Parce que... Et quand j'ai préparé ça, ça m'a fait tellement de bien. Tellement de bien. Ça va, ça vous encourage? Écoutez bien. 1 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Nous avons vu quel était le plan de Dieu initial. Nous avons vu quelle est l'origine du problème. La chute, la notion de domination, de prendre le dessus. Et voici ce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Jésus rétablit toutes choses, bien-aimés. Soyez mes imitateurs. Je pense que ce texte que nous allons lire est celui dans le Nouveau Testament qui rassemble plus cette idée et qui nous donne le plus d'éléments. C'est pourquoi je vais le prendre et m'arrêter quelque temps dessus. Mais voici ce que Paul nous dit. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, ne grincez pas des dents, mesdames, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Je n'aurai pas le temps ce matin de m'arrêter sur ces notions-là, mais il y a plein d'éléments que nous pourrons détailler et vous pourrez les demander à Jean-Marie. C'est... Qui a été béni par le cours sur l'Apocalypse hier ? Waouh. Je vous encourage vraiment, on le diffusera ce cours. Ce sera une source de bénédiction pour vous. Merci Jean-Marie pour tout ce que tu fais. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, et de même que l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Toutefois, dans le Seigneur, voici la différence et voici une fois de plus ce que l'œuvre de la croix a accompli pour vous, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est que dans le Seigneur, cette notion de domination a été éradiquée pour le peuple de Dieu. Dans le Seigneur, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Dans le Seigneur, ces notions de domination ne sont plus là. Pourquoi? Et c'est comme ça que Jésus l'a obtenu. De même, écoutez bien ce qu'il est dit, la femme a été tirée de l'homme en étant prise de sa côte, la première femme. Donc implicitement, toutes les femmes qui en découlent. Mais de même, Dieu a permis à vous, mesdames, d'engendrer tous les hommes sur cette terre. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns les autres. Nous nous complétons les uns les autres dans le Seigneur. Le texte nous dit que l'homme est le chef. Le chef ici, c'est la tête. Le mot chef signifie tête. On a cloué au-dessus de sa tête, nous dit dans la parole de Dieu, au-dessus de Jésus, c'est le même mot qui est employé pour ici, le mot chef. C'est une fonction. La tête, c'est une fonction, c'est la responsabilité, Ce n'est pas la domination. Vous pouvez avoir un chef sans qu'il vous domine. On est d'accord avec ça? Une fonction et une domination ne sont deux choses différentes. La domination, c'est exercer une force, une autorité, une pression, de manière choisie, volontaire. Le chef, c'est prendre sa responsabilité. Vous pouvez, bien aimé, mes chers frères, être de bons chefs sans être des dominateurs par l'aide du Saint-Esprit. Mesdames, vous pouvez vivre avec de bons chefs de famille sans être dominés par l'aide du Saint-Esprit. Je termine ce matin avec ces pensées-là. Alors, que faisait Jésus? Jésus était-il féministe? Au regard de tout ce qu'on vient de voir sur la notion du féminisme, certains me diront oui, mais c'était féministe, mais d'une autre manière, pas comme on le dit aujourd'hui. Le concept, le mot, l'idéologie féministe a été inventée, créée dans un but, celui que je vous ai décrit tout à l'heure. Ne me dites pas que Jésus était féministe. Jésus était fils de Dieu. Jésus était juste. Jésus était Christ. Et à l'exemple de Christ, nous devons traiter, messieurs, les femmes comme Christ les a traitées. Les femmes ont toujours eu de la place autour du ministère de Jésus. Jésus faisait quelque chose de particulier. Il les enseignait de la même manière qu'il enseignait les hommes. Ce qu'il ne faisait pas auparavant dans le judaïsme. La femme n'avait pas le droit à l'instruction. Et je le rappelle que les premiers chrétiens, les hommes et les femmes, étaient ensemble pour recevoir l'instruction. Jésus laissait de la place. Jésus laissait les femmes prendre de la place. Jésus se laissait entourer. Jésus les considérait tels qu'il considérait les hommes, avec leur force et avec leur faiblesse. Il ne faisait aucune distinction. J'attendais un amen quand même, c'est Jésus. Mais Jésus n'a jamais eu un comportement subversif à l'égard des femmes. Il n'a pas nommé une femme parmi les 12. Il aurait très bien pu le faire. Ce n'est pas une question de peur de la société. Quand il s'adressait à une femme, il renversait déjà les codes. Jésus n'a pas eu ce comportement-là pour les raisons qu'on découvre dans la parole de Dieu, et je vous encourage à le chercher. Mais Jésus a traité l'homme et la femme exactement de la même manière. Exactement de la même manière. Et c'est ce que nous devrions vivre, nous, peuple de Dieu, également. Nous avons des fonctions différentes. Nous avons des sensibilités différentes. Nous avons des rôles peut-être différents dans certains éléments. Et je crois que nous avançons de gloire en gloire. L'Église sans tache ni ride, c'est à la fin. Elle fait une cure de jouvence. Plus nous avançons, moins nous aurons toutes ces scories qui nous empêchent de... toutes ces choses qui nous handicapent. Et je me réjouis pour ça. Mais je crois, bien aimé, que nous devrions nous considérer tel que Jésus a considéré la femme et tel que Jésus a considéré, à vrai dire, chaque être humain en face de lui. Je termine, pendant que l'équipe s'installe, s'ils le veulent bien, s'ils le désirent, j'aimerais terminer en m'adressant d'abord à vous, messieurs. Messieurs qui me suivez sur Internet, messieurs qui m'écoutez dans cette salle, j'aimerais m'adresser à vous. J'entends souvent un texte qui nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ici, le texte nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Elle ne dit pas « Marie, soumettez vos femmes ». Le texte ne dit pas cela. Pour quelle raison? Parce que si une femme qui est régénérée, si une femme qui est libre de toute forme de domination a compris qui elle est en Jésus, naturellement, elle se soumettra. Naturellement, elle se mettra sous la protection, sous la responsabilité du chef, qui n'est pas là dans un but de domination, mais qui est là dans un but de fonction et de rôle. Femmes, soyez soumises à vos maris. Permettez-moi de vous le dire, messieurs. J'entends des fois de manière mauvaise, malséante, des hommes qui se disent aimer le Seigneur et qui essayent de mettre leurs épouses ou les femmes de l'Église dans un carcan, qui essayent de les enfermer et qui les mettent sous pression et qui essayent de les écraser. La place de la femme, ce n'est pas juste dans les écoles du dimanche. La place de la femme, ce n'est pas juste dans les choses cachées. Mesdames, vous avez reçu des choses merveilleuses, mettez-les en pratique. Et messieurs, dans vos couples, n'essayez pas de dominer vos femmes en étant chef. Mais soyez des chefs comme Jésus a été, comme Jésus est envers l'épouse. Je vous le rappelle, nous sommes l'épouse. Il est l'époux. Comment Jésus traite l'Église? N'en est-il pas pour autant le chef? Jésus fait preuve de patience. Jésus fait preuve d'amour. Jésus encourage. Jésus émonde. Jésus accompagne. Mais Jésus est un merveilleux chef pour l'épouse. Et je loue Dieu que je sois l'épouse et qu'il est l'époux. Mais mon frère, veille sur cela. Veille à cause d'une culture, veille à cause d'une souffrance personnelle à ne pas exercer une domination sur celle qui t'accompagne. Ne pas exercer une domination sur celles qui sont tes sœurs avec qui tu passeras l'éternité au ciel. Veille, veille à cela. Mais messieurs, soyez des hommes. Soyons des hommes. N'ayons pas peur du sexe opposé. N'ayons pas peur de prendre des initiatives. N'ayons pas peur de prendre des responsabilités. N'ayons pas peur de faire des choix et de les assumer. N'ayons pas peur. Pourquoi ? Parce que là aussi, Dieu nous a donné un mandat. N'ayons pas peur de l'exercer. J'attendais un amen, messieurs. Amen. N'ayons pas peur. Et je termine en m'adressant à vous, mesdames. Ne vous laissez pas manipuler par toute forme d'idéologie qui nous éloigne de ce que la parole de Dieu nous dit. L'homme n'est pas votre rival. L'homme n'est pas votre rival. Votre époux n'est pas votre concurrent. Nous sommes là pour nous compléter. Nous sommes là pour avancer les uns et les autres. Avançons, mais n'ayez pas peur là aussi d'être ce que Dieu vous appelle à être. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire preuve d'initiative. N'ayez pas peur de prendre de la place. N'ayez pas peur de ces choses-là. L'Église ici, nous sommes heureux de voir tant de femmes servir. À mes côtés, j'ai tant de jeunes sœurs qui sont là et des femmes plus âgées qui servent. Nous sommes bénis par cela. C'est une source de joie pour nous. N'ayez pas peur. Mais mesdames, et particulièrement les jeunes femmes, je me permets de réaffirmer la chose que Paul dira. Veillez à choisir quelqu'un qui marche avec ces convictions-là. Parce que c'est dans un mariage chrétien que vous pouvez être libre de toute forme de domination. Je ne dis pas que tous les hommes sont des dictateurs en puissance. Je dis juste que dans le monde spirituel, il y a des réalités et que ces réalités, elles sont brisées en Jésus-Christ. Pouvons-nous fermer nos yeux quelques instants, s'il vous plaît ? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, je sais que j'ai touché probablement chez des gens des choses qui ont fait écho à des réelles souffrances. Et j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce qu'on ne méprenne pas mes propos. Qu'on ne pense pas que je prenne les choses à la légère. Parce que la seule chose que je veux ce matin, Seigneur, et que je souhaite, c'est de mettre à la lumière les choses. Père, ta parole nous le dit, nous tous qui te contemplons à visage découvert, nous sommes transformés à ton image. Nous te regardons comme dans un miroir et nous sommes transformés. Ce matin, nous avons regardé quel était ton plan, quelle était ta volonté, comme dans un miroir. Alors je te prie, transforme-nous. Transforme-nous. Il y a eu des choses lourdes, des choses pénibles, des souffrances à cause des excès et de la conséquence du péché dans ce monde. Mais Seigneur, je veux prier pour tous les hommes qui m'écoutent. Fais de nous des hommes solides selon le cœur de Dieu. Fais de nous des hommes équilibrés selon le cœur de Dieu. Fais de nous des hommes aimants selon le cœur de Dieu. Fais de nous des hommes courageux comme Jésus l'a été. Mais fais de nous des hommes équilibrés comme Jésus l'a été également. Que rien de culturel, que rien, Seigneur, qui viendrait à enlever la puissance de la parole de Dieu ne prenne le dessus dans nos cœurs en tant qu'hommes. Mes pères, je prie pour toutes mes sœurs. Mes chères sœurs, bénis-les, fais-leur du bien. Mais Père, là aussi, libère-les, Père, de pensées ou d'idéologies qui viendraient à vouloir avec des moyens humains prendre la domination sur l'homme. Père, protège-les de cela. Qu'elles soient libres, puisque tu les as libérées en Jésus-Christ. Nous te louons. Nous te bénissons parce que Seigneur, si les difficultés sont présentes, si les souffrances sont présentes, si ces réalités sont là, tu nous as affranchis, toi Jésus-Christ. Et ce matin, une fois de plus, je veux juste te remercier pour l'œuvre de la croix. sans laquelle nous ne serions pas dans cet état de liberté entre hommes et femmes. Nous sommes complémentaires, nous nous soutenons les uns les autres. Je te loue et je te rends la gloire au siècle des siècles, et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Pouvons-nous nous lever ensemble ? Alléluia. Je vous invite à prendre ce chant pour terminer qui dit « Je suis enfant de Dieu ». Regarde ton frère, regarde ta sœur, dis-lui avant quoi que ce soit, tu es enfant de Dieu.